clémence de ma vie.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Et si on sortait pour manger, oui, au maquis ou au chantier, un dolé chez Thérèse aux feuilles vertes, vous connaissez? On dit qu'il est absolument délicieux. Ou dans le boui-boui de la rue Félicien David, vous savez, celui qui est juste avec le plat unique et le dessert, daube aux olives, crème caramel, délicieux, des grillades, baguettes, peut-être un sandwich? Sortir ou manger chez soi, quelle est l'exception, quelle est l'ordinaire? Ces façons de manger in ou out disent quelque chose de nos sociétés et de nos manières de vivre, et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Avec vous pour guide, Jean-Pierre Poulain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de l'alimentation, vous dirigez la chaire Food Studies, qui est une formation académique qui est partagée entre l'université de Toulouse, Jean Jaurès, et l'université Taylor's à Kuala Lumpur en Malaisie. Vous êtes d'ailleurs en duplex du Toulouse, nous vous remercions beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. En deux mots, la sociologie de l'alimentation, est-ce qu'on peut dire que c'est l'observation de ce que dit de nous, notre manière de manger, nos cultures alimentaires?
Oui, on peut dire ça. C'est essayer de comprendre les dimensions sociales de l'alimentation. On se nourrit pour faire marcher notre corps, pour faire marcher la machine, mais l'alimentation sert à plein d'autres choses. Elle tisse des liens sociaux, elle transmet des systèmes de valeurs, elle permet de réguler la société. On fait de la politique avec l'alimentation, on règle des enjeux qui sont des enjeux planétaires. La faim dans le monde, la durabilité, l'écologie, l'alimentation est partout dans la société, dans l'intimité, dans le lien social et dans la politique.
Et ce, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
In Senegal, the Tangana is the place where you start your day.
Au Sénégal, les tanganas sont vraiment les endroits où l'on commence sa journée. On y vient pour le petit déjeuner. Dès que je suis au Sénégal, je viens ici. Tout le monde vient ici en réalité pour le petit déjeuner.
The baguette is always present, as in Senegal, the baguette is fresh.
Il y a toujours de la baguette fraîche au Sénégal, toujours. On en fait des sandwichs de bœuf grillé, d'omelettes de pommes de terre ou des œufs. Ou plus simple encore, du pain, du beurre. On vient aussi pour le déjeuner, le dîner, dans la nuit. C'est ouvert tout le temps et c'est le cœur de Dakar. Tout le monde vient ici, on peut être assis à côté d'un banquier, d'un ouvrier. Tout le monde est traité de la même manière, on est tous égaux, sur le même banc. C'est un endroit plutôt simple. Mais la nourriture y est toujours super bonne.
Le cuisinier sénégalais Pierre Thiam à Dakar, out pour son petit déjeuner dans un tangana donc, l'une des mille manières de manger hors de chez soi. Quand vous entendez Pierre Thiam, justement dans ce type d'endroit, ça vous fait penser à quoi, Jean-Pierre Poulain ?
Le fait que le petit déjeuner, c'est vraiment un lieu absolument formidable pour comprendre la différence des sociétés. Vous voyez, par exemple ici, ce qu'ils viennent nous dire, c'est que c'est un lieu où, quelle que soit la position sociale, mais aussi les Sénégalais aiment à manger le premier repas de la journée dehors. Et vous avez des sociétés dans lesquelles on mange le premier repas de la journée chez soi. Et même des sociétés très proches, je pense à la société indonésienne versus la société malaisienne, qui sont des sociétés proches du point de vue culturel. Eh bien, d'un côté, on va manger fortement en dehors, de l'autre côté, fortement en dedans. Et le petit déjeuner, c'est vraiment un des lieux absolument étonnants et fascinants pour analyser cette frontière, ce mouvement qu'il y a entre l'intérieur du ménage, l'intérieur du foyer et l'extérieur. Et comment, dans la distribution des différents repas de la journée, eh bien, on va mettre en place, répartir entre ce in et ce out, les différents repas. Ici, on a un lieu de lecture qui est très intéressant, à la fois de la diversité, comme on vient de le voir, mais aussi dans l'évolution historique d'une société. C'est-à-dire cette question, la façon dont cette frontière bouge, nous donne à comprendre. C'est un analyseur des transformations sociales et des diversités sociales.
Manger chez soi ou bien sortir, d'où est-ce que vient cette notion? Elle est très ancienne, je crois.
Oui, en fin de compte, cette histoire de la frontière, elle renvoie à l'organisation des sociétés. Et le ménage est quelque chose qui a connu des formes et qui connaît des formes très diverses. On a, par exemple, pour faire simple, la famille étendue, dans laquelle on va avoir non seulement plusieurs générations, parfois trois, Mais on va avoir aussi à l'horizontale les frères et sœurs qui se mettent en couple et ont des enfants, qui vont vivre sous le même toit. Avec des situations parfois tout à fait surprenantes, qui sont ce qu'on appelle les longues maisons en Asie, dans lesquelles, dans certaines sociétés, on va avoir mais jusqu'à 15, 20, 30 familles qui vont être sous le même toit. Donc c'est des maisons immenses, très très longues, avec des sous-ensembles, qui sont des sous-ensembles qui correspondent à une famille plus ou moins large. Et souvent d'ailleurs, les cuisines sont dans la position d'articulation entre ce qui est le privé et le semi-public. Donc ces questions, c'est que la taille du ménage, et allant jusque dans les sociétés modernes, sur le couple et les enfants, et de plus en plus le monoménage, c'est-à-dire un adulte, parfois avec des enfants ou parfois seul, qui peut avoir toute une série de relations et manger avec un tas d'amis et de partenaires. Mais on voit ici comment on passe des familles étendues à des familles nucléaires, et dans lequel ici la manière de gérer l'intérieur et l'extérieur va varier et va nous donner un indicateur pour comprendre ces transformations. Alors prenons 2-3 exemples. Si gardons le Sénégal, on a souvent des familles étendues dans la partie traditionnelle ou la partie des classes moyennes les plus élevées, où le couple avec les enfants qu'on va constituer un modèle. Mais dans les familles plus larges, alors on va mettre en commun les ressources, c'est aussi une manière d'amortir. Lorsque quelqu'un perd un emploi, il y a des jeux de solidarité, on fait famille, on fait groupe. Et quand on va manger, donc on fait à manger, on mange pas toujours tout le temps ensemble, mais notamment chez les jeunes adultes, aller au maquis, sortir de la maison, manger en dehors, c'est aussi sortir de la pression un peu du groupe, aller respirer, aller faire des rencontres, aller se trouver dans un autre espace social qui est l'espace de la domesticité, l'espace de l'en commun. Dans d'autres endroits, la question d'aller manger dehors, ça va être une façon aussi de rompre avec le quotidien, non plus sur la pression environnante d'autres membres de la famille, mais ça va être casser ce quotidien dans lequel on fait à manger, on fait la vaisselle, et donc on va trouver en dehors un certain nombre d'occasions d'alléger ce qu'est la contrainte autour de l'alimentation. Mmh. Et de pouvoir se consacrer à la découverte de nouveaux plats ou la redécouverte de choses qu'on aime et partager avec quelques amis, partager avec des gens qu'on apprécie, même si de temps en temps, la convivialité, elle est un peu musclée, puisqu'autour de la table, à la fois on partage des choses positives, mais en fin de compte, c'est un lieu où la société se régule, la famille se régule. De temps en temps, c'est un peu musclé. Il faut imposer aux gamins un certain nombre de règles, ils ont très envie d'échapper à tout ça. À l'intérieur d'un couple, parfois, il y a des éléments de régulation aussi, hein, qui pourquoi tu fais la gueule. Tout ça, ça participe de la vie et de la densité de la relation alimentaire.
On a envie de parler aussi de cette alimentation dedans et cette alimentation hors de chez soi, comme le reflet également d'exil, d'une nécessaire adaptation parfois pour ceux qui ont dû partir et quitter leur pays, à l'instar de la fameuse recette de houmous que la Libanaise André Malouf nous avait partagée.
Ma recette, elle est venue surtout d'un manque et d'une absence. En partant du Liban, nous sommes arrivés en France et je ne me rendais pas compte à l'époque que la cuisine libanaise allait nous manquer tellement. Au Liban, quand on avait envie de manger un hummus, on allait dans des petits restaurants, chez Ajami ou dans d'autres petits restaurants. On le faisait rarement chez soi. Et donc, arrivé en France en 1976, il y a un seul restaurant libanais, place de la Contrescarpe. Et donc, c'était compliqué d'aller manger du hummus là-bas chaque fois qu'on en avait envie. Et donc, on s'est mis à préparer le hummus à la maison en faisant des tests. Il n'était pas assez fin, pas assez bien cuit, pas bien assaisonné. Et donc, ça a été pendant des années et des années d'expérimentation du hummus. Et en fait, je pense que dans les restaurants, c'est la quantité de hummus qui est préparée avec des appareils assez puissants. Donc, l'émulsion se fait de manière parfaite.
On a vraiment cet esprit-là de conception de recettes et de goût quand on mange à l'extérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire également, Jean-Pierre Poulain ?
Migration et restauration, c'est un thème fabuleux, fabuleux. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la migration vietnamienne en France et la façon dont les restaurants asiatiques se sont mis en place. 54, Dien Bien Phu, la chute donc du camp retranché, va annoncer la partition du Vietnam et va annoncer une première vague migratoire. Cette première vague migratoire, ce sont des gens qui sont du haut de la société, qui sont très cultivés, qui étaient en relation avec la société coloniale, et que lorsqu'ils arrivent en France, ils ouvrent des restaurants. Et ces restaurants sont dans la pure tradition de la gastronomie vietnamienne, avec tout son nuancier, la cuisine de Hue, la cuisine d'Hanoï, la cuisine de Saigon. Et ça va donner de très très bons restaurants. Il y en a un d'ailleurs qui est pas très loin de la maison de la radio et qui est de très haut niveau. Puis on a la chute de Saigon, milieu des années 70. Et là, on a une deuxième vague migratoire. Elle annonce à nouveau d'autres formes de restauration, mais on a affaire à des gens qui sont pas tout à fait du même endroit du Vietnam. Et puis on a les années 80 avec une migration des boat people, des gens qui viennent de la rizière, qui sont des gens qui sont pauvres, des gens qui sont moins éduqués que les premières vagues migratoires, et on va avoir d'autres restaurants. Et là, on a des restaurants qui sont un peu syncrétiques. C'est-à-dire qu'on a à la fois de la cuisine vietnamienne, mélangée un peu avec la cuisine cambodgienne, un peu thaï, et on a une sorte de nuancier asiatique. Et comment ça se fait? Pourquoi ils ouvrent des restaurants? Les premiers, ils avaient d'autres ressources. Mais on a ici quelque chose qui est un marqueur du lien avec l'identité. Et on peut, dans la période qui va suivre au Vietnam, et la période communiste, il va y avoir une perte des connaissances même de la gastronomie, parce que ça va être considéré comme quelque chose de bourgeois, quelque chose de pas très intéressant. Moi, j'ai par exemple travaillé dans les années 90 à l'inventaire des traditions de la cour de Hue, où on avait la chance d'avoir quelques cuisinières qui étaient encore en vie et qui étaient en mesure de témoigner d'un niveau de sophistication de la cuisine qui est absolument extraordinaire. Mais mes collègues vietnamiens avec qui je travaillais, au tout début, ils disaient « mais c'est pas intéressant cette affaire ». Et il a fallu vraiment les convaincre de l'intérêt que ça pouvait avoir du point de vue culturel et du point de vue de l'histoire et de la compréhension de la société vietnamienne. Donc on a ici, dans ces restaurants, quelque chose qui va faire à la fois le lien avec la communauté des gens qui ont migré, mais là, plus largement, c'est une mise en scène, c'est une vitrine de la culture vietnamienne. Moi, j'ai découvert le Vietnam dans ma jeunesse avec un oncle qui m'a amené la première fois dans un restaurant. Alors, c'était pour moi une ouverture totale sur une manière de manger dont j'imaginais même pas. Gamin élevé en Corrèze, de gens qui mangent avec des baguettes. Aujourd'hui, on est quelque chose qui est tout à fait dans le paysage de nos enfants. Ça montre également l'élargissement du paysage alimentaire qui a eu lieu.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Ensemble comme pique-nique dans la nature, en apportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons.
Le les cornichons Nino Ferrer sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde en goguette, un bento à la main, un pain brochette dans l'autre. Et sur le grill, cette semaine, notre façon de manger, dedans, dehors, au travail, en pique-nique, avec le sociologue Jean-Pierre Poulain, titulaire de la chaire Food Studies, créée conjointement par l'Université Jean Jaurès de Toulouse et la Taylor University à Kuala Lumpur, en Malaisie. Je dois faire une confidence, Jean-Pierre Poulain, parce qu'en préparant cette émission, en fait, j'ai eu ce réflexe très très français qui a été de penser manger dehors comme manger au restaurant, forcément, mais pas n'importe quel restaurant. Et du coup, j'ai oublié tout plein d'aspects de ce que c'est que manger dehors. Parce que manger dehors, c'est aussi aller pique-niquer, c'est aller à la cantine, qui même en ces temps de confinement, en fait, a un air un peu exotique. Du coup, la cantine, on a presque envie d'y retourner, puisqu'en temps de télétravail et de repas chez soi, on n'a plus cette zone d'aération-là. Et c'est en ça que j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur l'origine de comment, en fait, on en est venu à sortir et à manger hors de chez soi, alors que initialement, bah, si on reprend à 2 siècles ou 3 siècles en arrière, peut-être en Europe, principalement, on mangeait essentiellement chez soi. Qu'est-ce qui a fait qu'on est sorti de chez soi ?
Avant de se poser la question d'une perspective évolutionniste et de la façon dont les choses auraient pu bouger, je pense que la diversité est vraiment quelque chose d'important. Bien sûr, il y a le restaurant. Il y a aussi effectivement le pique-nique, il y a aussi la cantine, il y a aussi le fait de prendre de la nourriture de chez soi qu'on va manger dehors. Et de la même façon que la nourriture rentre de l'extérieur à l'intérieur du foyer. Et tous ces jeux d'aller-retour, là, en fin de compte, ça renvoie à cette question de la frontière, c'est-à-dire, et de sa porosité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui sort du foyer qui va dehors? Et selon les cultures, les Japonais utilisent le bento, ils ont des boîtes très très belles dans lesquelles on met des aliments, et puis on l'amène au bureau ou en dehors, et on va manger. C'est du eating out, mais c'est quelque chose qui a été préparé à la maison. Les Indiens ont un truc absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'industrie qui organise l'amener de la maison au bureau d'une gamelle qui a été préparée par la famille pour quelqu'un qui va travailler. Et ça s'inscrit dans la problématique des castes. C'est-à-dire que je ne peux pas, même si les castes ont été officiellement abandonné, on ne décide pas les réformes de la société par décret, nous disait un des grands sociologues français, eh bien, elle reste encore dans les
d'ailleurs,
esprits.
Je vous propose d'écouter ces dabawala, ces porteurs de gamelles sur les lieux de travail.
Avec leur petit chapeau blanc sur la tête, les dabawala, les porteurs de déjeuner, sont une vraie institution de Bombay. Pour les dabawala, servir ses déjeuners, c'est servir l'humanité. Système hérité de l'époque coloniale, possible uniquement dans un pays où la main-d'œuvre est peu chère. 5000 dabawala livrent chaque jour quelques 200 000 déjeuners faits maison tous les jours. Même s'il pleut, nous servons. Même l'été, pendant les grosses chaleurs, nous servons. Et même quand il y a des inondations, nous apportons les déjeuners. Pour moins de 10 dollars par mois, les dabawala récupèrent les déjeuners chez vous et les livrent au bureau, toujours à l'heure.
Un système absolument incroyable et totalement inspirant que ce système de livraison de repas, Jean-Pierre Poulain.
Oui, mais notre commentateur le regarde avec une grille de lecture économique. En réalité, il y a quelque chose d'autre qui détermine ça de façon radicale. C'est le fait que je ne peux manger que quelque chose qui a été préparé par quelqu'un qui est dans une caste équivalente à la mienne ou supérieure à la mienne. Et donc, quand je vais au restaurant, c'est un danger important, un danger symbolique. Donc, ce qui nous est décrit ici, c'est l'alimentation sur le lieu de travail. Mais pareil pour l'hôpital. Dans les hôpitaux indiens, pendant très longtemps, il n'y a pas de cuisine. Ce sont aux familles d'amener les repas pour les malades. On a ici, et c'est une des grandes, grandes réformes, complexités de la culture indienne aujourd'hui, qui est de voir comment les formules de restauration se décastifient et deviennent démocratiques. C'est pas forcément le mot qui va bien, mais correspondent pour tout le monde. Si on continue la diversité, les EHPAD constituent un des lieux extrêmement importants du eating out.
Les EHPAD étant évidemment ces établissements qui accueillent des personnes âgées dans un contexte un peu médicalisé, bien souvent.
C'est un lieu où, en fin de compte, on va changer le in. Et on va avoir, à l'intérieur de ce nouveau lieu de vie, des lieux où il y a des salles à manger en commun. Et on est dans un endroit très curieux. très curieux, qui demande de la part de ceux qui rentrent à l'EHPAD d'incroyables apprentissages et réapprentissages. Et c'est un élément assez déstabilisant au tout début, parce que on n'a pas toujours envie de manger avec plein de monde qu'on connaît plus ou moins bien. Et cette espèce de mise en scène, parfois d'une convivialité heureuse, là, un peu artificielle, hein, qui est utilisée, est quelque chose qui mérite d'être questionné. Hein, je pense que dans quelques années, je risque de me trouver à l'EHPAD. Et c'est un des thèmes sur lequel j'engage un certain nombre d'étudiants à travailler, parce que je pense qu'on a une marge de progression qui est assez importante.
Cette porosité entre le privé et le public, comment est-ce qu'elle s'organise et est-ce qu'elle s'est émissée de plus en plus dans nos vies ?
L'alimentation a toujours été un des lieux où on règle ce qu'on pourrait appeler la proxémique alimentaire. Alors la proxémique, vous savez, c'est une notion qui a été proposée par Edward T. Hall, qui est un anthropologue américain, qui essayait de comprendre comment dans la communication, tout l'espace qu'on laisse entre les deux locuteurs, ou le nombre des locuteurs, comment cet espace est porteur de signification. Comment on gère le rapport à l'intimité, à la proximité, à la distance, avec ces dimensions extra-linguistiques. Et j'ai moi-même proposé de regarder l'alimentation avec cette grille de lecture. C'est-à-dire, par exemple, si je vous invite à prendre un verre dans un bistrot, si je vous invite à manger dans un restaurant, si je vous invite à prendre un verre à la maison, si je vous invite, quand vous venez à la maison, à prendre le verre dans le jardin ou dans la maison, ceci, ça n'a pas la même signification. On va donc jouer sur la nature des aliments. La boisson est moins impliquante que l'alimentation. On va jouer sur les lieux, c'est-à-dire quel type de restaurant. Il y a des restaurants qui sont moins engageants, il y a des restaurants qui sont plus engageants, parce qu'il y a une dimension d'intimité plus forte.
C'est en termes d'implication de ce qu'on donne de soi, en fonction de, oui, de l'endroit où l'on habite.
Absolument, de ce qu'on laisse avoir de soi. En fin de compte, inviter, ouvrir, laisser la porosité passer, laisser passer à travers ses frontières, c'est donner à voir. Si je vous invite à la maison, vous voyez ma manière de vivre, comment je décore, qu'est-ce que je mets dans ma bibliothèque, qu'est-ce que je donne à voir. Ensuite, si ce que je vais préparer même, si c'est le lièvre en chabessal de ma grand-mère, ou si c'est quelque chose que j'ai fait très rapidement, tout ça, ça va avoir des significations très différentes qui vont faire que quand vous allez me rendre l'invitation, eh bien, vous allez tenir compte de ce que j'ai fait dans la première invitation. Il y a toute un jeu, toute une dialectique du don et du contre-don qui va s'établir dans les jeux d'invitation. Et donc, cette proxémique, c'est une manière de regarder la manière dont nous utilisons les aliments, les boissons, les lieux, les formes de repas, pour signifier que vous êtes plus ou moins proche et que on gère cette relation. J'ai en tête un film développé par Desmond Morris, qui était un anthropologue anglais, dans lequel il faisait des sortes de caméras cachées où il observait des couples qui étaient dans leur premier rendez-vous. C'est absolument étonnant de voir à la fois comment ce jeu de la distance, l'utilisation des aliments, la frite que l'on donne à la personne en face de soi, comment ces éléments vont petit à petit signifier que la distance se transforme ou pas. Et donc on a ici cette alimentation qui va être jouée. Plus largement, chaque type de restaurant, chaque forme de restaurant va être marqué par des significations particulières. Et si on compare simplement les Français et les Anglais, vous voyez, nous, en France, le eating out, c'est plus de 60% des repas qui sont pris dans des cantines. C'est-à-dire des choses qui sont organisées sur les lieux de travail, sur les lieux de scolarité, et qui permettent à des gens, rapidement, mais dans une dimension très collective, de manger quelque chose qui ressemble à un plat, une entrée, un dessert, même si ça a évolué et que maintenant on serait plutôt sur le plat. Nos amis anglais, eux, eh bien à 66%, ils préfèrent utiliser le ticket restaurant lorsqu'ils répondent à cette alimentation au travail et qui leur permet une relation plus individualisée à l'alimentation, qui permet d'aller dans le bistrot d'à côté en bénéficiant du support de l'entreprise. Vous voyez ce rapport tout à fait étonnant entre des formes qui vont être attachées au repas collectif, au repas organisé, structuré, même s'il se transforme, Ça, c'est une des signatures de la société française. Versus nos amis anglais, qui vont avoir un rapport un peu plus individualisé, pour lequel le chèque restaurant va constituer quelque chose de plus parlant, parce que permettant de manger comme on veut, quand on veut. Et quand on regarde les emplois du temps, on est fasciné à l'échelle de la population. La France s'arrête à 12h30, alors que l'Angleterre, le repas de midi est quelque chose qui s'étire et pour lequel vous pouvez quand même facilement téléphoner à une entreprise et avoir des gens qui vous répondent à des moments qui sont des moments dits de repas. Nos amis espagnols, les Français, peut-être un peu les Italiens, eh bien on a ces caractéristiques en commun. Et ce qu'on essaye de faire actuellement en Asie, c'est de développer des grandes enquêtes nationales pour permettre une analyse comparative de la façon dont les repas sont pris en dehors ou dans la maison et comment la nourriture, et c'est quelque chose qui est absolument fascinant avec l'épidémie, comment la nourriture bouge en ce moment, comment on fait se livrer un certain nombre de plats à travers les systèmes de délivrerie et de portage à domicile. Comment les restaurateurs, bien embêtés par cette situation...
Ils s'organisent, renouvellent leur offre, se réinventent.
Essayent en tout cas, absolument. Oui. Absolument. Mmh. Qu'est-ce que ça annonce? Voilà, c'est un élément d'observation très très intéressant.
Jean-Pierre Poulain, vous l'avez dit sans vraiment le dire, on a commencé à parler un petit peu du travail déjà, depuis le début de cette émission. Nous sommes le 1er mai, fête du travail. Oui. La gamelle, c'est un ustensile qui est assez symbolique de cette porosité et de ce chemin entre le privé et le public.
Absolument. Symbolique de cet aller-retour. La gamelle, 19e siècle, les grandes usines qui s'installent, on ne prévoit pas d'organiser l'alimentation sur le lieu de travail. C'est de la responsabilité des salariés. Et donc, ils amènent des gamelles. Ce qu'on prévoit, c'est des lieux où ils peuvent manger. Ça, c'est le sommet du confort. Et puis, dans les grandes revendications sociales, prenons bien acte que, par exemple, la journée de 8 heures, c'est une journée qui est structurée par l'alimentation. C'est 8 heures midi, 2 heures, 6 heures. Ça permet de déjeuner le matin, et ça permet de rentrer à la maison à midi. Et moi, j'ai le souvenir, je suis né à Tulle, il y avait la manufacture d'armes où il y avait près de 2000 salariés dans les années 60. Les types sortaient avec leur vélo, hein, il y avait un flux là. Et ce flux montait donc vers le haut de la ville. Et les gens avaient le temps de manger, même pour certaines faire la sieste, hein, petite 20 minutes de sieste. Ils reprenaient le vélo, ils redescendaient. Et le soir, après 6 heures, on rentrait. Vous voyez, c'est 3 repas par jour qui étaient structurants de la journée de travail. Puis très vite, la société va se transformer. La société, l'urbanisation, avec les cités dortoirs, dans le couple, les gens qui travaillent pas forcément au même endroit. Et là, la revendication, ça va être la journée continue. Et c'est le moment, dans les années 70, où les cantines vont se mettre en place et l'organisation de la restauration collective va se mettre en place.
Avec le choix en Angleterre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du ticket restaurant, je vous propose aussi de faire un aller-retour dans le temps. Cette fois-ci, nous sommes en 1936. Il y a un certain Charlie Chaplin qui mange et qui teste une machine à manger pour nourrir le personnel sans interrompre son travail. Nous sommes dans les temps modernes.
C'est le représentant mécanique qui vous parle. J'ai le très grand plaisir de vous présenter Monsieur G. Wilcome Billows, l'inventeur de la machine à nourrir Billows. La machine à nourrir Billows vous aidera à augmenter votre production tout en diminuant vos frais généraux. Permettez-nous d'attirer votre attention sur quelques-unes des caractéristiques de cette admirable machine. L'assiette à soupe automatique et son souffleur à air comprimé. L'ouvrier n'a plus d'énergie à dépenser pour refroidir son potage. Remarquez l'assiette tournante et son pousse-aliment, lui aussi automatique. Admirez notre appareil à manger le maïs avec sa transmission synchronisée qui vous permet de passer de la grande à la petite vitesse par un simple mouvement de la langue. Et voici, suprême raffinement, le tampon bouche qui évitera à vos ouvriers de se tâcher. Laissez-nous faire une démonstration à l'un des membres de votre personnel et vous serez définitivement conquis. Car ne l'oubliez pas, si vous voulez distancer la concurrence, la machine Billows vous donnera des années d'avance.
Pas de perte de temps, maximum de rendement avec cette machine à manger, Jean-Pierre Poulain. Significatif aussi, on est en 1936.
Et même par la suite, c'est-à-dire que la cantine, c'est un des lieux où les directions d'entreprise vont écouter ce qu'on appelle aujourd'hui des signaux faibles, c'est-à-dire que les mécontentements, les mouvements sociaux, les grèves, les problèmes s'expriment dans la cantine. Et dans ces années 60, 70, 80, la gestion des cantines va devenir un lieu stratégique.
Un instrument
donc
de lutte.
Donc il y a des enjeux politiques.
Cette alimentation.
Oui. Oui, mais aussi de bien-être.
On pense pays développé, on pense nord, on pense pas vraiment sud avec les cantines.
Ah oui, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, dans un grand nombre de pays du sud, où on va dans la rue. Manger en dehors, il faut aussi parler des street food. Je pense à Singapour, je pense à Hong Kong. On descend dans la rue, manger, il y a des stalls dans lesquels on va avoir un choix tout à fait large de différentes nourritures. Il y a également dans un grand nombre de pays d'Asie ce qu'on appelle des food courts, c'est-à-dire des lieux où il y a une grande salle.
Des halles
Oui, des halles, absolument. Avec des gens qui ont des petites entreprises qui vendent 2-3 plats. Et donc vous vous installez au milieu, vous êtes plusieurs, et vous allez faire votre marché et vous mangez en commun quelque chose qui a été acheté à différentes personnes. Mais je voulais revenir sur la gamelle. Parce que vous voyez, la gamelle, elle est revenue, grosso modo, à partir des années 2000. Elle est revenue principalement au départ par des femmes qui voulaient se mettre au régime, qui en avaient marre de la cantine et qui avaient envie de manger quelque chose qui corresponde à un certain nombre de règles qu'elles s'étaient plus ou moins fixées. Moi, je me rappelle, c'est déjà il y a longtemps, hein, j'avais fait un papier qui s'intitulait « Le retour de la gamelle ». Et quand on a petit à petit vu ça, on a vu les motivations changer, évoluer. Au début, c'était vraiment quelque chose qui était dans l'ordre de la nutritionnalisation. Hein. C'était, j'ai fait le régime au chou pour maigrir et donc je me continue avec ma gamelle. Et puis, assez vite, ça s'est inscrit dans une autre manière d'aborder la question qui, pour certains, est une dimension économique, c'est-à-dire ça coûtait moins cher. Et quand bien même on avait, par exemple, des tickets restaurants, eh bien, on en faisait un autre usage. Ticket restaurant permettait d'aller au restaurant en famille,
une fois le week-end venu.
Absolument. Et donc, parfois même, acheter de la nourriture. Et ça s'est élargi. Et dans le baromètre santé-nutrition, le dernier de l'Institut national de promotion de la santé, l'INPES, eh bien, la première manière de manger en dehors du foyer, après la cantine, eh bien, c'était en France, la gamelle. Qui est quelque chose d'absolument fascinant. Et quand vous regardez les demandes dans les entreprises, mais dans les universités, c'est quelque chose d'absolument... Je fais moi des photos pour voir comment les étudiants, alors beaucoup d'étudiantes, amènent le Tupperware et mangent alors l'été dans le parc, sous les arbres, l'hiver dans les salles de cours.
Oui, ça c'est un élément fondamental dont on n'a pas encore parlé depuis le début de cette émission, à savoir il faut du soleil pour pouvoir manger dehors quand même, quand on a une gamelle et quand on fait pique-niquer.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games, every word that I say is coming straight from the heart. So
I'm not afraid to die.
La porte était ouverte, voilà la bonne nouvelle. Leave the door open de Bruno Mars et Anderson Park, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde, vous êtes sur RFI. De goût des petits déjeuners attrapés en chemin pour le travail, des goûts et des textures d'ailleurs plutôt que de chez soi. Et même si la cuisine de maman restera toujours, on est d'accord, la meilleure au monde, nous sommes avec le sociologue, professeur Jean-Pierre Poulain, professeur à Toulouse, à l'université Jean Jaurès et également directeur de la chaire Food Studies entre Toulouse et la Malaisie, Kuala Lumpur, la Taylor University. On parlait un petit peu avant cette porte laissée ouverte, qui est assez intéressante d'ailleurs comme choix musical, je trouve, Jean-Pierre. Cette porte ouverte pour laisser venir celui qui n'a pas forcément à manger, à qui on laissera une place à table, ou quand le public justement arrive dans le privé. On est toujours dans cette confusion des espaces, on a l'impression.
Oui, et cette charité, peut-être quelque chose d'autre, peut-être le fait des formes d'expression de la solidarité qu'on retrouve à peu près partout, avec des versions différentes, des manières de légitimer de façon différente. Je pense à cette place supplémentaire qu'on doit laisser en Europe. Je pense à ce qu'on appelle les open house en Malaisie, c'est-à-dire des moments festifs, l'après-Ramadan, où on va ouvrir la maison et puis on invite des gens. Et avec plusieurs niveaux de socialité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rentrer dans la maison, manger, s'asseoir, rester un moment, d'autres qui vont juste passer, manger, rentreront pas trop. Et puis il y a cette règle qui fait que on ne refuse jamais quelqu'un qui passerait et qui aurait besoin de manger. Ces formes-là sont intéressantes à analyser aussi.
Et en ces temps de carême, de ramadan, avec ce pilier justement du partage à l'issue de la prière à la mosquée, un partage qui a été sensiblement absent lorsque, au plus fort de l'épidémie, en tout cas en Europe l'année dernière, qui avait été ressenti comme une vraie privation de ne pas pouvoir partager ce qu'on avait cuisiné pour les autres à l'issue de la rupture du jeûne. Ce partage, il est aussi essentiel. Et cette alimentation et le fait de manger dehors, dans les religions, elle marque également un rythme selon vous ?
Ah oui, et elle marque aussi la transformation des sociétés. Comment, par exemple, deux aspects. Le premier, c'est comment les restaurants se sont emparés, dans les sociétés asiatiques musulmanes, se sont emparés du ramadan comme un lieu ou comme un moment particulier dans lequel on va faire des grands moments de repas. Et il y a un moment de la prière, puis il y a un moment où le coup d'envoi est lancé, et là, des centaines de personnes, à la fois en famille, mais de façon collective, vont partager ce repas et cette rupture du jeûne. Intéressant, hein, parce qu'à la fois se joue ici quelque chose qui est assez classique dans le restaurant. C'est une sorte de dialectique entre l'intime et la mise en scène de soi, la mise en scène du groupe. C'est-à-dire le montrer et le cacher. Il y a toujours un espace qui reste un espace géré dans l'intimité de la table, mais on le fait collectivement. Mais quand on le regarde ensuite sur cet espace particulier, où il y a une expérience qui est une expérience spirituelle, qui a une dimension privée importante, mais elle se partage. Elle se partage dans certains moments et elle se partage de plusieurs façons. Il y a des aliments qui bougent et il y a les individus qui bougent à travers cette frontière de l'intérieur et de l'extérieur. Et je dialoguais avec des collègues indonésiens il y a 2-3 jours et je posais la question, mais qu'est-ce que ça a changé? Et immédiatement, c'était c'est très dommage, on n'a plus cette possibilité d'échanger, de cette mise en commun. Et il y avait une jeune femme qui vivait seule, qui se retrouvait seule devant son repas de rupture de jeûne, c'est quelque chose dont je n'avais jamais fait l'expérience.
Une épreuve supplémentaire.
Absolument, une épreuve supplémentaire. Donc on a ici à nouveau ce glissement des personnes et des plats. Et regardez, si on le généralise un peu, ce glissement, c'est pas tout le monde qui va être admis à l'intérieur du foyer. C'est pas à tout le monde qu'on va donner les mêmes types de plats. Et alors, quand on est dans des sociétés multiculturelles, ce qui est absolument fascinant, c'est la cohabitation qui va s'opérer. Il va y avoir, par exemple, des groupes de la société qui, par exemple, mangent du porc, qui vont, à ce moment-là, dans ces problématiques d'échange, faire des plats dans lesquels on va enlever le porc et on va faire un plat qui sera le même, mais pastiche, avec des produits qui sont consommables par ceux qui ont un tabou alimentaire particulier. Cette adaptation-là, qui permet d'échanger, de tenir ensemble, est quelque chose d'absolument fascinant. Alors, on l'observe dans les sociétés multiculturelles. Ça a aussi été étudié par Laurence Thibert à l'île de la Réunion, qui est un endroit absolument fascinant pour comprendre la cohabitation entre des groupes culturellement très différents.
Je repense au carême et au ramadan. C'est l'un des effets de l'épidémie que l'on subit depuis un peu plus d'un an maintenant. Quels sont les autres effets sur le plan de l'alimentation que l'on peut noter? Est-ce qu'un appauvrissement ou une précarisation encore, peut-être?
Oui, absolument. Il y a deux effets. Il y a le premier, c'est que ça rapatrie sur le ménage. En France, c'est à peu près un quart, un cinquième des repas de la semaine. C'est quelque chose qui est absolument fascinant. Vous voyez, quand quelqu'un s'arrête de travailler, passe à la retraite, le grand problème, c'est de gérer l'alimentation. La question du matin, dans un couple dans lequel les gens travaillent, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? À midi, chacun, dans son espace particulier, mange de façon assez individualisée. Et la question là, c'est qu'est-ce qu'on mange à midi et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et ça, ça a été une des premières difficultés, ou en tout cas bonheur par moment, difficulté souvent, qui est en fait de socialiser un certain nombre de décisions. Ça a amené des moments fabuleux de redécouverte un peu de la cuisine, de redécouverte de certaines formes de convivialité, y compris des formes à distance, avec Instagram, avec les réseaux sociaux où les gens se prennent en photo en train de manger, où il y a des échanges. Mais le deuxième aspect, qui est sans doute le plus compliqué, c'est que cette crise, elle a un effet d'amplification des inégalités sociales. L'alimentation est au cœur de cette question. Lorsqu'on est dans les couches les moins favorisées, à travers l'alimentation, on bénéficie d'aides indirectes. C'est par exemple, dans la cantine scolaire, les tarifs qui vont être dégressifs en fonction des revenus des parents. C'est dans l'entreprise, le prix du repas à la cantine qui varie également en fonction de la position sociale et des revenus. Pareil pour les tickets restaurants. Et voilà que on arrête tout ça, il faut manger à la maison, et que non seulement il va falloir se taper la cuisine, mais en plus ça va coûter plus cher.
Ça va coûter plus cher.
Et ça va coûter plus cher pour une partie de la société. Et quand on regarde les budgets du bas de l'échelle sociale, c'est d'abord le loyer, le logement, puis ensuite c'est l'alimentation. Quand on est en haut de l'échelle sociale, ben on s'est retrouvé dans une situation absolument incroyable. On pouvait plus voyager, on pouvait plus dépenser son argent dans des loisirs, qui sont les postes importants du budget des ménages les plus aisés. Et on s'est retrouvé, déjà en septembre l'an dernier, avec 100 milliards d'épargne forcée, alors même que d'autres couches de la société, près d'un million de Français, sont passés en dessous du seuil de pauvreté. Incroyable inégalité ou facteur d'aggravation des situations d'inégalité.
C'est justement la place et le soulagement quelque part d'avoir cet espace où l'on mange dehors et où on a toute une nouvelle organisation du coup de la vie et de la cuisine et de la place de la cuisine dans sa vie, y compris dans la construction des logements dans lesquels l'espace pour une cuisine n'est même pas envisagé. Qu'est-ce que cela veut dire du logement de demain? Est-ce que ça veut dire qu'on va aller de plus en plus vers une alimentation dehors et de moins en moins une alimentation privée à l'intérieur, ou qu'elle se fera de toute façon, elle est en train de complètement changer?
Oui, c'est fascinant. Dans certains endroits, alors il s'agit de Singapour, mais c'est vrai aussi des beaux quartiers de New York, on est dans des situations où on voit apparaître des logements dans lesquels on ne fait pas vraiment de cuisine. C'est-à-dire que il y a un espace dans lequel il y a un micro-ondes, il y a un évier, mais il n'y a pas d'éléments pour cuisiner. On peut réchauffer, on peut faire bouillir de l'eau pour faire des cafés, il y a des machines, etc. Mais il n'y a pas de ce qu'on appelle des cuisines au sens classique du terme. Et on a ça aujourd'hui à Singapour. Quand vous cherchez un logement, l'agent immobilier va vous dire vous voulez hot kitchen, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de comprendre quel est votre style de vie. Et quand on regarde, vous voyez, dans ces enquêtes qu'on fait, sur Singapour, on a plus d'un repas sur deux qui sont pris en dehors de la maison. Et dans les repas qui sont pris à la maison, un grand nombre d'aliments arrivent de l'extérieur, ne demandent pas un travail de cuisine. Ça, c'est un phénomène qu'on trouve dans certains lieux hyper urbanisés. C'est Hong Kong, les très grandes villes, c'est Singapour. Mais quand on est à l'échelle des États, alors les choses sont bien plus nuancées. Ce phénomène-là, on ne va pas le trouver dans des villes moyennes, on ne le trouve pas dans des zones plus rurales. Mmh. On est dans quelque chose qui est la pointe avancée des zones les plus urbanisées du monde.
On va aller un petit peu au village, là. Ça vous dit ?
Oh.
Et la nuit s'étend
Babodou, bébé.
Sur le village.
Oui, 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 oui. Alors la grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé. Avec du bon foufou, sauce gombo. Là-bas, à Douala.
Et la nuit s'étend sur le village.
Oui, 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 oui. Et par un beau clair de lune. C'est comme moi, le fracatacatacatacata, tam tam, résonne.
Un soir au village, Manu Dibango sur RFI dans le goût du monde. Mais bien sûr, nous allions vous emmener, Jean-Pierre Poulain, déguster un petit peu quelques brochettes et quelques alocos, un petit peu de fruits et de mangue peut-être. On est bien dans cette évocation-là, fondamentale.
Oui, et on voit bien à la fois la chanson, à la fois l'ambiance, qu'un repas, c'est plus que de la nutrition. Un repas, c'est un événement social. C'est quelque chose dans lequel se crée du lien, se crée du bien-être, de l'être ensemble, et que c'est pour ça que c'est important.
Comme c'est la tradition dans le goût du monde, je vous ai demandé, Jean-Pierre, d'apporter un ingrédient et un ustensile, ou en tout cas de nous les confier, puisque vous êtes à Toulouse, donc pas avec nous. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'ingrédient que vous avez choisi et l'ustensile que vous avez choisi ?
J'aime le sel. Et j'aime le sel parce que c'est à la fois quelque chose qui révèle l'aliment, et puis c'est tellement important que c'est devenu le sel de la vie, c'est-à-dire quelque chose qui donne le goût aux choses et à la vie elle-même. Voilà pour l'ingrédient. Et puis, mon enfance a été rythmée au son du bruit du rouleau à pâtisserie. Non pas que ma mère tapait sur la tête de mon père, parce qu'il n'avait pas été gentil, mais parce que mon oncle, qui était pâtissier dans l'entreprise de mon père, était en train de taper sur du beurre et qui sortait du frigo très dur. Et ça faisait un bruit du pétard incroyable. Mais quelque chose qui était un sorte de réveil très doux. Curieux, hein, cette bombe. Mais j'ai cette mémoire, sans doute attachée à mon oncle.
Merci beaucoup Jean-Pierre Poulain pour ce voyage et pour votre éclairage. Vous trouverez sur la page de l'émission les liens qui nous permettront de vous suivre et de vous lire. Sociologie de l'alimentation est publiée aux Presses universitaires de France, tout comme le Dictionnaire des cultures alimentaires, vos travaux aussi sur l'obésité. Et vous, si vous nous racontiez où vous mangez, quelles sont vos préférences, vos habitudes, vos découvertes, une adresse peut-être à partager, une recette découverte dans un maquis, un message sur les réseaux sociaux du Goût du Monde, sur WhatsApp. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préféré. Vous pouvez même nous laisser des mots doux et des étoiles. C'est pas mal. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. À vous, bien sûr, qui êtes la raison même de l'existence de ce rendez-vous hebdomadaire. À samedi prochain, même table, même heure.
Tout à l'heure sur